Et Mimi, t'as acheté des piles pour le poste?
Zut de flûte, j'ai oublié. Oh, mais on va louper la JT du local.
Quand j'observe les enfants, je suis toujours fascinée par leur spontanéité, leur capacité à se laisser surprendre sans cesse. Cet émerveillement des choses, il faudrait l'entretenir, le garder en soi, et comme pour beaucoup, on en a perdu un peu l'habitude, il s'agirait de le déclencher. Et là, bien sûr, vous me demanderez comment. Peut-être que se faire surprise à soi-même, c'est se donner rendez-vous, chercher l'événement qui nous fait sortir là où nous ne sommes encore jamais allés. Et si vous manquez d'idées, que vous ne voyez pas où je veux en venir, c'est parce qu'aujourd'hui, mes invités vous feront justement une belle proposition dont nous parlerons ensemble. Et oui, l'agité du local commence, bienvenue à vous. Et avec moi aujourd'hui, Lucie Brière et Camille Godet pour l'association Au Foin de la Rue. Bonjour Lucie, bonjour Camille.
Bonjour. Bonjour.
Évidemment, vous avez hâte d'en savoir plus, mais laissez-moi d'abord vous présenter les sujets du jour. Nous irons du côté de Laval à la rencontre de Sylvain Biel, représentant syndical Force Ouvrière et infirmier en psychiatrie à Laval, à l'hôpital de Laval, qui nous expliquera cette grève annoncée des agents de l'USICEA, unité de soins intensifs spécialisée pour enfants et adolescents à Laval. Ensuite, Soizic me rejoindra en studio, en fait elle est même déjà arrivée pour la rentrée de sa chronique « Un autre écho de l'écho ». Mais comme à notre habitude, on commence par un point sur l'actualité. Et on commence à Mayenne, une très bonne édition des rencontres de l'emploi. C'était hier, 94 entreprises réunies et 1350 visiteurs se sont rendus à la salle polyvalente de Mayenne pour cette nouvelle édition, avec une nouveauté cette année, une soirée dédiée à la reconversion professionnelle. Un tour du côté de Cran, les élus de la communauté de communes souhaitent accompagner la création d'une association appelée L'Outil en Main. L'association aura pour objectif d'initier les enfants aux métiers manuels comme ceux de l'artisanat et du patrimoine ou encore les métiers d'art. Lucien Morancet, délégué territorial pour l'association nationale, explique l'objectif. Permettre à des bénévoles passionnés de transmettre leur savoir-faire de manière individualisée. Trois réunions d'information sont programmées au centre administratif intercommunal de Cran le 21, 26 et 28 septembre à 17h30. Revenons maintenant à Laval. Une marche contre les violences policières et le racisme est organisée ce samedi 23 septembre. Neuf syndicats, partis politiques et associations de la Mayenne organisent ensemble ce rassemblement qui aura lieu devant la préfecture à Laval. Parmi les revendications des organisateurs, on peut noter l'abrogation de la loi sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, une réforme de la police, le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant et le renforcement de lutte contre le racisme. Le rendez-vous est fixé à 11h devant la préfecture. Et pour terminer, c'est à l'huisserie que ça se passe. L'atelier du ferment produit depuis 5 ans du kéfir bio. Sylvie Hudel et sa fille Marjolaine Nantillet ont créé cette entreprise familiale qui comporte aujourd'hui 14 employés et vont désormais exporter leur kéfir bio en Suisse après avoir développé 1200 points de vente en France. Je vous parlais tout à l'heure de surprise. Pour cette rentrée, l'autre radio et le théâtre de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe, nous vous faisons gagner des places pour la pièce de théâtre « L'embarras du choix ». Mis en scène par Sébastien Azopardi, la représentation aura lieu à Sablé-sur-Sarthe le 7 octobre. Pour participer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Il vous suffira de taguer la personne avec qui vous souhaitez aller voir la pièce. Tentez votre chance dès maintenant, les deux gagnants seront tirés au sort et remporteront chacun deux places. Les résultats du tirage seront annoncés le 2 octobre. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir avec moi dans le studio Lucie Brière, coprésidente de l'association Au Foin de la Rue, et Camille Godet, trésorière de l'association. Vous arrivez toutes deux, je crois, avec une surprise, une bonne nouvelle. Tous nos auditeuristes connaissent déjà très bien les Foins de la Rue, le festival qui a lieu chaque année début juillet. Mais cette année, je crois, un nouvel événement est proposé par l'association. Je vous laisse nous en dire un peu plus.
C'est ça, oui, un nouvel événement donc, qui a été imaginé et porté par des bénévoles. Donc cet événement s'appelle Au coin du foin et qui aura lieu donc le 30 septembre à Saint-Denis-de-Gâtine.
Alors, la programmation donc de cette journée au coin du foin, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passera ce jour-là ?
Alors, la journée va commencer à partir de midi avec un repas partagé entre les bénévoles et le public qui viendra, un peu en mode pique-nique auberge espagnole, donc ça se passera à la bagagerie. Le bar sera ouvert pour pouvoir vendre de la boisson et puis il y aura aussi une vente de crêpes sur place donc pour ce repas partagé.
Donc à la bagagerie, donc c'est un tiers lieu à Saint-Denis-de-Gâtine.
C'est ça, c'était aussi le but de mettre en avant ce lieu qui a ouvert il n'y a pas si longtemps à Saint-Denis-de-Gâtine. Et ensuite, donc à partir de 14h, on part donc dans la rue principale de Saint-Denis-de-Gâtine, donc la rue de Bretagne qui est juste à côté. Et donc là, pour l'après-midi, les spectateurs pourront profiter en fait de la compagnie, de Miss Mo, du coup.
Qui est un clown, le clown Miss Mo.
C'est ça. Qui proposera à la fois un atelier autour de la manipulation d'objets, diabolo, balles de jonglage, et aussi de la sculpture sur ballon. Donc c'est vraiment proposé pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands qui le souhaitent. Donc ça sera dans la rue de Bretagne.
C'est ça. Et ensuite, donc un petit peu tout au long de la journée, il va y avoir... Donc c'est sur trois temps, la compagnie Zelga Zelga et les Névrosés, donc qui sont des danseuses qui proposent donc plutôt de la danse orientale et donc qui nous feront trois déambulations, on va dire, dans la rue l'après-midi.
Dans la rue de Bretagne.
C'est ça, dans la rue de Bretagne. Et donc, c'était aussi un souhait de la part des bénévoles quand on a créé cet événement, d'être ancré, on va dire, dans les rues de Saint-Denis-de-Gâtine et aussi pour nos commerçants, parce qu'en fait, l'après-midi, donc il y aura le bar du centre et les petits plats du four qui seront ouverts. Et donc, c'est eux qui, assureront, on va dire, les... le rafraîchissement, on va dire, des spectateurs tout au long de l'après-midi. Et ensuite, on retourne à la bagagerie le soir pour les concerts.
Donc, dès 19h, le premier concert commence à la bagagerie, le collectif OXO. Oui. Alors, quel type de proposition c'est ?
C'est un collectif qui propose à la fois du chant, de la musique et aussi de la langue des signes. Donc c'est plutôt un spectacle assez mélancolique qui met ces trois univers et qui commence du coup la soirée un peu en douceur pour pouvoir réunir tout le monde en fait à la bagagerie.
On y reviendra tout à l'heure, mais vous me parlez de langue des signes, de langage des signes sur cette partie de la soirée. On reviendra sur vos valeurs peut-être tout à l'heure. L'association Les Foins de la Rue prône l'inclusivité et donc on le voit directement sur cet événement donc, du 30 septembre, donc de 19h à 20h. On vient de le dire, ce sera le collectif OXO et à 20h30...
À 20h30, du coup, ce sera l'Orchestre à Janine. Donc là, c'est plutôt un groupe klezmer et musique de l'Est et qui mélange aussi du jazz manouche. Donc c'est quatre amis mayennais qui se sont réunis pour pouvoir, proposer un univers autour de ces musiques-là.
C'est ça.
Voilà.
Assez dansant. Pour faire monter la pression petit à petit dans la soirée.
La convivialité, là, vraiment festif.
Ouais. Plutôt dansant, oui.
Super.
Et ensuite, on finit avec I Am Fez. Donc, c'est de 22h à minuit. Et donc, c'est un DJ set participatif. C'est de l'électro un petit peu
déjanté.
Ouais. Voilà, c'est les mots, hein, c'est ces mots. Hein. Il se définit comme ça. Donc, participatif, pourquoi ? Parce qu'en fait, il va venir dans le public pour prendre des brides, on va dire, de son. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'imagine, j'adore le foin de la rue. Et ensuite, après, il va le retranscrire et mixer, en fait, sur la phrase que le public a prononcée.
Donc, une création en direct avec l'artiste.
Ouais.
Super intéressant.
Ouais.
Donc, cette soirée se termine à minuit.
Voilà.
Le 30 septembre, je vous le rappelle, donc à Saint-Denis-de-Gâtine. Les foins de la rue, donc on les connaît bien puisque le festival a lieu fin juillet chaque année.
Début juillet.
Début juillet, pardon, effectivement, début juillet. Mais ce n'est pas du tout le seul événement en fait
qu'on propose. Non,
voilà,
oui,
que vous proposez toute l'année.
C'est vrai que tout au long de l'année, en fait, on est inscrit dans le territoire et on souhaite apporter en fait l'accès à la culture pour tous, parce qu'en fait souvent nos événements comme là au coin du foin, en fait c'est totalement gratuit. On propose une programmation qui va être gratuite, et on va avoir d'autres petits événements qui sont peu onéreux. Par exemple, on va avoir les soirées rouges, donc qui se tiennent donc au cinéma Dernier. C'est une programmation, donc là toujours bénévole en fait, hein, c'est des bénévoles qui portent ce projet. Et en fait, ça va être une programmation qui va être en lien avec la musique. Et il y a ce fameux 20h17, donc avant la projection, où il y a une proposition artistique ou, qui est en lien en tout cas avec le film.
Donc, il y a la possibilité peut-être d'échanger également,
c'est
je ne sais
ça.
Pas.
Oui, en fait, il y a aussi un petit temps après le film, un petit temps thé-café, justement, pour échanger sur le film, un temps très convivial, comme on sait le faire au foin de la rue.
Toujours un temps de rencontre, de partage.
Voilà. On a d'autres événements. Sûr. On a aussi la soirée de la 3E, donc, qui aura lieu cette année le
3 février,
ouais. Voilà. Donc en fait, on est en partenariat avec la saison culturelle de Lernay, et en fait, on va être en lien pour la programmation, tout ça, et c'est une soirée partagée. Donc je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas, si c'est annoncé ou pas.
Peut-être une exclusivité.
Peut-être encore une exclusivité, donc à suivre en tout cas.
On le disait tout à l'heure, l'association Les Foins de la Rue porte de belles valeurs. On a tout à l'heure parlé de l'inclusivité, mais également le développement durable. C'est-à-dire que sur chacun de vos événements, vous êtes attentif aux soins, à la nature, à ce que vous laissez derrière vous, notamment un festival. On sait que des fois, les festivals, donc c'est évidemment des lieux qui rassemblent, qui permettent la rencontre, mais parfois, on peut le dire aussi un peu polluant. Les Foins de la Rue sont très vigilants là-dessus.
C'est ça. Depuis le début, depuis la création, en tout cas, c'était un souhait des organisateurs de faire attention à notre impact. Et donc, tout au long, on réfléchit encore. Hein, je pense que c'est un long travail, en tout cas, de devenir... on ne peut pas devenir complètement zéro déchet, je pense, sur un festival, mais en tout cas, c'est en travail. Par exemple, cette année, on a mis en place les contenants réutilisables pour la soupe à l'oignon, et donc c'est de voir comment, après, on le développe sur les autres stands. Ça passe par les masses solaires qui sont utilisées pour notre camping, qui est autonome, du coup, en énergie.
On a même engagé quelqu'un qui a travaillé là-dessus cette année et qui vraiment a réfléchi à tout le processus pour qu'on essaie d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement.
Ouais. Donc qui a créé, elle fait un travail magnifique, Anne, du coup, sur notamment elle a créé comme une petite mini déchetterie en fait au sein du festival, et ça a été vraiment bien accueilli par tous les bénévoles. Et après, ça se ressent aussi sur les festivaliers, dès lors où on communique énormément dessus. Je vois, il y a le travail des Michel aussi. Donc, c'est très bien parce qu'on le voit aussi fleurir sur d'autres événements. Mais nous, ça a été dès le début où on a eu cette brigade pour sensibiliser en tout cas nos festivaliers sur le tri des déchets, sur le camping, tout ça.
Et donc cela passe sans doute également par la formation des bénévoles, puisque vous accompagnez vraiment les bénévoles sur ces valeurs, sur l'organisation même, de toute façon, d'un festival. Je pense qu'il y a une grande communication qui doit être effectuée pour que tout le monde aille dans le même sens.
Voilà.
Donc on va rappeler les dates de l'événement qui arrive très prochainement. On a dit donc le samedi 30 septembre 2023 à Saint-Denis-de-Gâtine. On commence donc par un pique-nique collaboratif à midi à la bagagerie. Ensuite, dès 14h, vous pouvez retrouver au coin du foin, rue de Bretagne.
Rue de Bretagne, c'est ça.
Et dès 19h, retour à la bagagerie pour une soirée festive et musicale. Pour toute information, pour retrouver cette programmation, je pense que nos chers auditeurs peuvent se rendre sur votre site internet.
Oui, sur notre site internet et aussi sur notre page Facebook, Instagram, Asso au fond de la rue.
Où vous communiquez régulièrement d'ailleurs sur vos actualités.
C'est ça.
Merci Lucie, merci Camille d'être venue nous parler de cet événement. Je vous propose maintenant une pause musicale avec LP Other People. Peut-être de nous rejoindre ici sur l'autre radio, si c'est le cas, bienvenue dans cette agitée du local. Les déserts médicaux concernent aujourd'hui une commune sur trois en France, d'après un rapport du Sénat. entre 9 et 12% de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical, soit entre 6 et 8 millions de personnes. Une situation qui ne s'améliore pas en Mayenne puisqu'un nouvel appel à la grève a été lancé à l'hôpital de Laval. L'unité de soins intensifs spécialisée pour enfants et adolescents est menacée de fermeture en cette rentrée. Les agents ont donc décidé de se mobiliser et c'est Sylvain Biel, représentant syndical Force Ouvrière et infirmier en psychiatrie au centre hospitalier, qui nous détaille aujourd'hui la situation.
Alors l'UICA, c'est une unité de soins intensifs spécialisée pour enfants et adolescents. Donc c'est l'unique service d'hospitalisation complète pour enfants ou adolescents en souffrance psychique en Mayenne. C'est un service qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui initialement avait la capacité d'accueillir 10 enfants et qui progressivement au fil des années, on peut identifier ça à partir de 2010, a réduit son offre de soins par manque de moyens initialement budgétaires et maintenant aujourd'hui par manque de pédopsychiatres. Et on se retrouve avec aujourd'hui seulement 4 lits d'hospitalisation complète, avec en parallèle 4 lits d'accueil de jour de soins intensifs. Et le risque, c'est que demain, on n'ait plus rien du tout. Plus globalement, en psychiatrie en Mayenne, on a des très grosses difficultés de recrutement de soignants, et particulièrement de médecins, psychiatres et pédopsychiatres. C'est tellement fragile que là, à la rentrée, nous venons d'apprendre le départ d'un des médecins pédopsychiatres, et ça remet totalement en question la pérennité du service, du seul service d'accueil en hospitalisation complète de pédopsychiatrie mayennais. Là, aujourd'hui, on en est au point où, sans renfort médical, il est à craindre que ce service, l'UICA, ferme définitivement et qu'on se retrouve sans solution sur le territoire pour hospitaliser des jeunes enfants en souffrance psychique. Donc effectivement, les collègues ont décidé de se mobiliser, de ne pas rester les bras croisés face à la situation. Et jeudi, ils souhaitent se rassembler devant leur service, devant l'entrée de l'hôpital de Laval, finalement, pour défendre leur service, mais derrière ça, défendre aussi l'accès aux soins des enfants mayennais. On sait que les solutions, elles sont pas internes. Les effectifs médicaux, comme je le disais, que nous avons aujourd'hui, ne nous permettent pas de nous réorganiser en interne. Ça, c'est une certitude. Donc nos attentes, c'est qu'on puisse avoir un renfort venu de l'extérieur. Il nous faut un pédopsychiatre venu de l'extérieur. Il faut pour cela que l'ARS, notamment, prenne des dispositions. Et on sait qu'il y a des tractations en cours, qu'il y aura notamment jeudi une réunion avec les départements limitrophes pour pouvoir essayer de trouver ce renfort qui permettra de sauver l'UICA. Alors on sait qu'on a du mal à trouver des médecins, et ce peu importe la spécialité, d'une part parce que tout simplement on n'en forme pas assez et toujours pas assez malgré la suppression du numerus clausus, on est loin du compte. Et après il y a d'autres facteurs, nous sommes en Mayenne dans un territoire rural qui peine à être attractif, donc c'est aussi un autre sujet, c'est pourquoi sommes-nous moins bien soignés, ou du moins pourquoi nous avons moins bien accès aux soins en Mayenne plutôt qu'à Nice. C'est un vrai sujet. Pourquoi aussi derrière les médecins ne plébiscitent pas l'hôpital public mais préfèrent au contraire s'installer en libéral? C'est aussi un vrai sujet. Il faut revoir la manière dont on traite et dont on rémunère, dont on considère les médecins dans l'hôpital public. Et dernier sujet peut-être, c'est aussi plus spécifiquement pour la psychiatrie et la pédopsychiatrie, c'est qu'est-ce qu'on fait pour valoriser cette spécialité qui, on le sait, pour le coup, est vraiment malheureusement une spécialité qui est le plus souvent boudée par les internes en médecine qui choisissent toutes les autres spécialités avant celle-ci. Et bien, un médecin dans le public, en l'occurrence, il va devoir travailler et faire des astreintes ou bien des gardes, c'est-à-dire en gros travailler les week-ends, travailler parfois les nuits, travailler à Noël. Il va devoir aussi prendre la responsabilité de patients qui sont hospitalisés en crise, donc il y a une responsabilité vis-à-vis de leur état de santé qui est assez forte. Et aussi, il va finalement être rémunéré avec des grilles salariales qui sont pour le coup largement inférieures à ce à quoi pourrait prétendre un médecin qui veut s'installer en cabinet libéral. Donc en fait, effectivement, aujourd'hui, on se demande s'il y a une vraie volonté de sauvegarder le service public hospitalier et de vraiment attirer les médecins vers le service hospitalier, parce que c'est vraiment un sacerdoce. Un médecin aujourd'hui qui vient à l'hôpital, c'est vraiment un médecin qui vient par conviction et pour défendre des valeurs, parce qu'il n'y a vraiment strictement aucun intérêt sinon. Eh bien, le risque, c'est que finalement, on laisse des enfants sur le carreau. Alors, on ne les laissera pas sans aucune prise en charge, bien entendu, mais finalement, on leur apportera pas la prise en charge la plus adaptée. C'est-à-dire, soit on va, entre guillemets, emboliser des services ambulatoires, typiquement des centres de consultation, qui vont crouler sous la demande, qui croulent déjà sous la demande d'ailleurs, mais qui vont être encore plus mis en difficulté. Ou bien on va devoir trouver des solutions d'hospitalisation hors département et envisager qu'un enfant qui habite à Martigné-sur-Mayenne finisse par être hospitalisé à Angers, loin de sa famille, loin de ses repères, ce qui semble totalement inenvisageable. Ou alors on va aussi prendre le risque d'encore plus charger la pédiatrie conventionnelle de l'hôpital de Laval, qui déjà, depuis la réduction du nombre de lits du CICR en 2021, est largement impactée et voit son service débordé souvent par des adolescents en souffrance. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de résignation. Il faut qu'on se rappelle les fondamentaux. Le service public hospitalier est censé répondre aux besoins de la population, point. Quel que soit le lieu où on habite, nos conditions de vie, notre niveau de vie, voilà. Il doit répondre aux besoins de la population, point. Il ne doit certainement pas s'adapter aux moyens dont il a à disposition. Non, non, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas un marché. L'hôpital public, il ne fonctionne pas comme une entreprise. L'hôpital public a vocation à répondre aux besoins de la population, point. Et donc, pour le coup, c'est à l'État de prendre toutes les dispositions pour y répondre. Donc ça, il faut bien qu'on se le remette en tête. Et pour le coup, certainement pas se résigner à l'idée que demain, eh bien, on va tous devoir galérer pour trouver un médecin, galérer pour trouver des réponses. Non, on est un pays qui, quand même... reste un pays riche. On avait un modèle social qui était envié par de très nombreux voisins. À un moment donné, c'est à nous de nous donner les moyens de le redresser et de faire en sorte qu'il redevienne ce qu'il était auparavant. Les collègues de l'UCCA qui se mobiliseront donc jeudi midi devant l'hôpital, seront tout à fait tout le temps d'avoir du soutien et effectivement. Toutes les personnes qui se sentent la volonté et disponibles pour venir devant l'hôpital, permettront au moins aux collègues de se sentir soutenus et moins seuls face à cette épée de Damoclès qui est juste au-dessus de leur tête.
La mobilisation est prévue donc à midi devant le service rue du Haut-Rocher à proximité de l'entrée des urgences. La chronique Un autre écho de l'écho fait sa rentrée aujourd'hui avec Soizic pour conclure cette émission. C'est dans quelques instants parce que tout de suite, on écoute le cœur de l'artiste Chat.
J'ai essayé de m'approcher comme on effleure un animal effaroché. Courant sur l'autoroute de ton torse avec mon pied, je te touche, mais si tu dors, tu m'as coulé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore un peu comme le vent léger. Je cherche au fond de tes yeux le souffle qui m'a aimé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore une fois comme un éclat d'été. Approche-toi de moi et du bout des doigts, lâche-toi. Le cœur, des fois que je m'y glisse de nouveau, mais dans le cœur, la la la. Un jour je suis ta lune, ton coup de dingue. Demain je serai la dune où tu me flingues. Pourtant tes doigts de soie m'ont dessiné mieux que les fées. Je te touche mais si tu dors, l'encre va couler. Dans tes bras je m'abandonne, je suis affamée. Prête-moi ta couronne, je la porte et je deviens ta reine de la nuit. Attention, il est minuit, les larmes vont chasser les rubis. Me sassis, tu me vois fondre sous ton ombre. Je m'y glisse de nouveau, détends le cœur, la la la. Pourquoi le temps se fait-il l'amant le plus capricieux? Et on navigue dans les méandres de nos sauts adieux. Approche-toi, oublions ça comme l'or, ce que nous sommes fabuleusement heureux. Par défaut, dans le cœur, la la la.
Loisy qui est avec moi et aujourd'hui, pour ta chronique, tu vas, je crois, nous faire une petite leçon sur l'inflation. Bonjour Loisy.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Contente d'être de retour sur les ondes après de belles vacances. Alors aujourd'hui Margot, j'ai décidé de mettre mes habits de prof et de vous expliquer ce qu'est exactement l'inflation, comment elle se mesure et surtout pourquoi on a l'impression que les prix s'envolent alors que l'inflation officielle n'est que de 5,2%. Alors définissons d'abord l'inflation. L'inflation, c'est une situation de hausse généralisée et durable des prix, des biens et des services, comme le coiffeur, la coupe de cheveux chez le coiffeur, la visite médicale et autres. Autrement dit, si vous n'avez que les prix des prunes, par exemple, qui augmentent une année, parce que les premiers se sont fait attaquer par un méchant champignon, ben c'est pas de l'inflation. Le problème de l'inflation, c'est évidemment qu'elle correspond à une baisse de pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire qu'avec la même somme d'argent, eh bien on peut acheter moins de choses qu'avant. Alors en France, l'inflation est mesurée mensuellement par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Si vous allez à Paris en train, vous pouvez le voir, c'est juste avant d'arriver à Montparnasse, un grand bâtiment gris tout moche. Eh bien, c'est l'INSEE. Donc, cette inflation, donc, elle a atteint, je l'ai dit, cette année, 5,2% d'après l'INSEE.
Mais alors, Soisy, comment l'INSEE calcule cette inflation ?
Eh bien, il calcule d'abord l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, en observant la variation du prix de dizaines de milliers de biens et services. C'est ainsi que ce sont 160 000 articles qui sont observés, référencés dans 27 000 points de vente répartis sur tout le territoire et qui sont donc régulièrement passés à la loupe. 500 000 prix sont aussi relevés sur Internet et depuis 2020, 80 millions de prix sont ajoutés grâce aux données de caisse des grands magasins. Donc vous voyez, c'est quand même très sérieux parce que très vaste. Alors ce qui est drôle, c'est que le détail précis des prix étudiés n'est pas rendu public. Pourquoi ? Bien, c'est pour éviter que les producteurs et les commerçants modifient à la baisse les prix observés par l'INSEE en augmentant ceux qui ne le sont pas, ceux qui fausseraient les statistiques. Ce serait un petit peu fait en loose day finalement.
Mais revenons un peu à la première question. Pourquoi l'inflation officielle est-elle de 5,2% alors que nous, on a l'impression que les prix s'envolent ?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que l'INSEE ne prend pas en compte tous les biens et services produits. Par exemple, et c'est pas le moindre, elle n'intègre pas dans son calcul l'évolution des prix de l'immobilier. En effet, un achat immobilier, c'est considéré comme un investissement et non comme une consommation par la comptabilité nationale. Alors, ceci étant dit, les prix de l'immobilier ayant augmenté de plus de 22% en 10 ans, vous voyez que ça fait quand même effectivement une sacrée différence. Par exemple, une maison achetée 200 000 francs en 2010 vaut aujourd'hui 244 000 francs. Alors, c'est une bonne opération pour le vendeur, mais la pilule reste bien amère pour l'acquéreur. La deuxième raison a trait au fait que l'INSEE prend en compte ce qu'on appelle l'effet qualité. C'est-à-dire qu'il va délibérément diminuer le prix de certains biens, pourtant plus chers qu'avant, parce que leur qualité a augmenté. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un nouveau modèle d'ordinateur sorti en 2022. Eh bien, il est plus coûteux à l'achat que l'ancien modèle. L'INSEE considère que son prix réel a baissé parce qu'il dispose de nombreuses fonctionnalités nouvelles par rapport à son prédécesseur. Donc, sa qualité a progressé davantage que son prix. Donc, son prix relatif a diminué et c'est ce que va retenir l'INSEE. Alors, entre 2000 et 2022, la hausse de l'indice des prix à la consommation a été en moyenne de 1,5% par an. Mais aussi, c'est une moyenne. Et derrière cette moyenne, bien évidemment, il y a de profondes disparités. Par exemple, les prix agricoles ont, eux, bondi de 23% en 2022 par rapport à 2021. Le prix de l'électricité a augmenté de 45% et le gaz, tenez-vous bien, de 107%, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé. Alors à l'inverse, il y a des prix moyens comme la santé, les loisirs ou les communications qui, eux, ont un tout petit peu baissé chaque année. Alors c'est moins de 1%, hein, c'est pas non plus complètement fifou. N'empêche, et c'est la troisième raison, on retient davantage les prix qui augmentent que ceux qui diminuent. Les consommateurs sont bien plus sensibles à la hausse des prix de l'essence ou à celle des fruits frais plutôt qu'à la baisse des prix des téléphones portables ou des équipements audiovisuels. Alors, il faut dire aussi que les produits dont les prix ont explosé sont des produits essentiels, comme la nourriture bien sûr, ou des produits contraints, comme l'énergie. Parce que l'augmentation ces dernières années de ces dépenses dites contraintes, donc abonnement internet, au mobile, assurance, etc., grève de plus en plus le budget des ménages, qui une fois les factures réglées, eh bien s'aperçoivent qu'il leur reste beaucoup moins pour consommer, ce qui renforce le ressenti d'une inflation élevée. Mais ceci dit, Margot, bonne nouvelle, d'après l'INSEE, nous aborderions une période de fin d'inflation. Alors là, attention, il ne s'agit tout de même pas de déflation, qui elle définit la baisse des prix. À tout le moins, selon l'INSEE, nous rentrerions dans une période de désinflation, c'est-à-dire une inflation qui continue d'augmenter, mais moins vite. Et en fait, nous serions très certainement face à un effet de cliquet, c'est-à-dire que les prix qui ont augmenté resteront à leur niveau. Alors vous voyez Margot, les économistes sont des gens formidables. Ils ont tout prévu dans leur besace à vocabulaire, des mots pour nommer tous les scénarios qui nous attendent.
Donc une bonne nouvelle, mais pas si bonne que ça finalement.
Disons l'arrêt des mauvaises, on va dire ça comme ça.
En tout cas, merci Soizic de nous avoir éclairé sur tout ça. L'agité du local de ce mercredi 20 septembre est terminée, mais notre programmation continue. À 19h, vous pourrez écouter Novorama, une sélection de nouveaux albums indie, rock, pop, électro, avec des chroniques et interviews d'un groupe ou d'un artiste émergent. On ne s'arrête pas là d'ailleurs, parce qu'à 20h, vous écouterez The Voice of Cassandre, des mixtapes et playlists de différents artistes. Et pour terminer votre soirée en beauté, il y aura Chaosphère avec Christophe. Il était au Portugal, à Pindelo dos Milagres, pour la 14e édition du Milagre Metalaiero. Pardon, hein, la prononciation est un peu terrible. C'est un festival de métal. Pour ma part, je rends l'antenne et je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, évidemment, faites le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.